100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes, Accent d'Europe a pris son rythme estival avec cette nouvelle rediffusion de nos meilleurs moments. Un nouvel Eldorado pour les Monténégrins, qu'ils soient médecins, dentistes ou bien inspecteurs de police à la retraite, la Californie, où ils partent travailler dans les fermes de cannabis. Une version balkanique moderne du rêve américain, Simon Rico.
Igor a fait de longues études de médecine, mais il n'a jamais réussi à trouver de travail stable au Monténégro. Alors il a décidé de partir en Californie, l'état le plus peuplé d'Amérique où l'usage du cannabis récréatif est légal depuis le 1er janvier. Igor s'apprête à rejoindre l'un de ses amis, employé dans l'une de ses nouvelles fermes cultivant le cannabis. Une activité en plein essor, ce marché pourrait rapporter pas moins de 5 milliards de dollars en 2019. Aucun chiffre officiel n'est disponible, mais de nombreux Monténégrins seraient déjà partis vers l'Ouest américain, attirés par les salaires mirobolants qu'on leur promet. Bien sûr, les frais de voyage sont à leur charge, et si les fermes sont bien légales, la plupart de ces ouvriers travaillent au noir. Ils n'ont pas de visa de travail, seulement un visa touristique de courte durée. Depuis quelque temps, le cannabis californien est même devenu un sujet de discussion incontournable dans les cafés de Podgorica, la capitale du Monténégro. Il faut dire que la perspective de gagner 500 euros, le salaire moyen local en 2 jours, est une opportunité plus que séduisante. Le filon attire aussi de nouveaux acteurs, des intermédiaires proposent désormais leurs services pour faciliter les embauches et en font même la promotion ouvertement sur Internet via des clips sur YouTube où ils exhibent des liasses de dollars. Si les jeunes sans emploi ont été les premiers à partir, l'appât du gain a maintenant gagné toutes les couches de la société monténégrine. Policiers à la retraite, patrons en faillite, dentistes ou avocats, les candidats à la ruée vers l'or ne manquent pas. Voilà qui révèle l'état de délabrement économique et social dans lequel se trouve le petit état des Balkans, dirigé depuis 1991 par le même clan, celui de Milo Djukanovic.
Depuis décembre dernier, en Autriche, un climat d'hostilité pèse sur les musulmans. Le pays est désormais dirigé par une coalition de la droite conservatrice avec l'extrême droite du parti FPE, suite à une campagne dominée par les thèmes de l'immigration et de l'asile. Ce qui semble avoir libéré la parole raciste et populiste. Alors qu'ils sont souvent accusés de communautarisme, certains musulmans autrichiens répondent en dénonçant ce racisme ambiant. C'est le cas de l'association Réseau de la société civile musulmane, qui va même jusqu'à organiser un cours d'autodéfense pour les femmes et en particulier pour celles qui portent le voile. Céline Béal y a assisté.
Comment se débarrasser d'un assaillant qui vous plaque au mur, tire sur votre voile ou sur vos cheveux? En quelques mouvements experts, la prof d'autodéfense montre les bons réflexes à une douzaine de jeunes femmes. Kimono rouge, voile noir, la championne d'arts martiaux propose cette introduction à l'autodéfense à la demande d'une association. Le réseau Société Civile Musulmane veut lutter contre l'islamophobie et permettre aux citoyens musulmans de participer au débat public, au-delà des différentes confessions. C'est sa militante Inès Mahmoud qui a organisé le cours du jour. Elle ne mâche pas ses mots sur les raisons qui l'y ont incité.
Parce que c'est important que les femmes musulmanes, surtout elles, sachent se défendre elles-mêmes. Parce que le racisme anti-musulman est en forte progression en Autriche. Nous avons maintenant un gouvernement néo-fasciste qui contribue à intensifier ce climat dans la société.
Pour cette jeune politologue et juriste, les femmes sont souvent en première ligne en cas d'actes malveillants, parce que le voile est un objet qui excite les préjugés. Inès estime que la rhétorique stigmatisante utilisée par certains responsables politiques a depuis longtemps mené à une libération de la parole, voire des actes racistes. Yasmine, étudiante ingénieure de 23 ans, raconte.
J'étais simplement dans la rue, aux environs de l'université, et un homme qui était passé à côté de moi, mais qui était déjà loin, est revenu cracher à mes pieds. Bon, je ne porte pas de voile, mais ça se voit que j'ai des origines étrangères.
La jeune fille n'a pas réagi. Si elle est venue aujourd'hui au cours, c'est plus par curiosité que parce qu'elle se sent en danger dans la ville. Il lui semble néanmoins que le climat a changé dans son pays.
La politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, influence la manière dont les gens pensent. Je l'ai constaté même chez mes meilleures amies. Elles ont des idées en partie influencées par l'extrême droite. Ça m'a un peu déçue, mais quand on en parle avec elles, alors elles reconnaissent que ces idées ne sont peut-être pas justes.
Une autre participante confirme qu'elle se sent stigmatisée par le discours politique. Mais elle ne compte pas se laisser faire, ni dans la rue, ni en général.
Si quelqu'un veut te déshumaniser, tu réagis, tu vas dire « Hé, regardez, je ne suis pas comme vous pensez, je ne suis pas ce que prétendent certains hommes politiques. »
Résultat, la communauté musulmane d'Autriche évolue, selon cette jeune mère.
Nous devenons enfin actifs, nous nous réveillons. Et là, on se dit, mais qu'avons-nous donc fait tout ce temps? Nous nous sommes toujours cachés, nous avons caché notre religion, notre identité. Je trouve que de s'en rendre compte, c'est une bonne évolution.
Et la jeune femme elle-même dit que les questions venues de l'extérieur l'ont amenée à réfléchir davantage sur sa foi.
Je suis beaucoup plus religieuse qu'avant et maintenant je porte le voile. Dieu soit loué.
Depuis qu'elle se couvre les cheveux, elle croit sentir plus de regards hostiles. Mais elle reçoit aussi beaucoup plus de sourires d'inconnus, dit-elle. Porter sa religion comme un étendard, est-ce une bonne idée? Une autre élève, Nessie, relève un cercle vicieux. Selon cette étudiante en architecture, le problème est que certaines musulmanes et musulmans manquent de confiance en eux.
Ce sont justement eux qui se réfugient dans des groupes fermés. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir leur place parmi les Autrichiens, comme on dit, voire que ceux-ci ne les aiment pas. C'est pour ça que, par exemple, les Turcs ou les Égyptiens restent entre eux. Mais c'est justement ceux-là qui ensuite se font attaquer.
Les participantes s'accordent à dire que le cours d'autodéfense développe la confiance en soi. Certes. Mais l'organisatrice et militante du réseau Société Civile Musulmane, Inès Mahmoud, voit aussi dans l'apprentissage de l'autodéfense l'occasion d'encourager un esprit d'autodéfense sur un plan plus politique.
Dans ce cours, il s'agit d'apprendre des techniques, des prises ou encore de renforcer son assurance dans l'espace public. Mais il s'agit aussi de créer une conscience collective entre femmes, d'établir une collectivité entre personnes de couleur, entre migrants, demandeurs d'asile, etc. Tous ceux en réalité qui sont dans la ligne de mire du changement autoritaire qui est en train de se produire.
Est-ce là l'islam politique tant redouté en Autriche ? Réaction contre réaction, repli communautaire contre méfiance anti-musulmane, et vice-versa. Au cours d'autodéfense, qui était d'ailleurs en théorie ouvert aux non-musulmanes, les participantes avaient en tout cas des analyses variées de la société autrichienne. Et presque toutes étaient enchantées d'avoir l'occasion de s'exprimer et de s'expliquer à la radio.
Ils ont une technique éprouvée pour communiquer avec des proches partis loin de chez eux ou des inconnus à l'autre bout du monde, les radioamateurs qui, à l'heure du téléphone portable et d'Internet, continuent de se passionner pour les techniques de transmission, et ce partout en Europe. En Allemagne, ils sont environ 70 000 à pratiquer ce loisir. Pauline Curté a rencontré quelques-uns de ces radioamateurs lors d'un rassemblement à Munich.
Longues antennes, émetteurs de toutes les formes et de toutes les couleurs, micros et surtout beaucoup de câbles. Dans les locaux de l'Université des sciences appliquées de Munich ce samedi matin, plusieurs centaines de radioamateurs, c'est ainsi qu'ils s'appellent, partagent d'un stand à l'autre leurs connaissances et leurs passions. Beaucoup sont radioamateurs depuis plusieurs décennies, c'est le cas de Rainer Englert.
Je suis devenu radioamateur à l'âge de 15 ans. C'est une passion qui me permet de communiquer directement avec d'autres personnes partout dans le monde. Par exemple, grâce à la radio, j'ai un très bon ami qui habite en Colombie, un autre qui habite aux États-Unis à Denver. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui travaillait en Antarctique dans une station de recherche.
Aujourd'hui, l'Allemagne compte environ 70 000 radioamateurs, un chiffre en légère baisse ces dernières années. Cela ne décourage pas Rainer Englert et d'autres membres de l'association allemande des radioamateurs qui diffusent chaque dimanche à 11h une émission de radio partout dans le monde. Et ce n'est là qu'une petite partie de leurs activités. car l'objectif principal de ces passionnés est de faire avancer la technologie dans ce domaine. D'ailleurs, le point commun entre tous leurs appareils est qu'ils ont été fabriqués de bout en bout par les amateurs eux-mêmes. C'est ce qui fascine Markus Heller, un autre amateur de radio présent à Munich.
Le kit basique du radio amateur se trouve sur Internet pour 20 ou 30 euros. Mais généralement, les gens veulent aller plus loin. En tant que radio amateur, nous n'avons pas à obtenir de certificat pour nos appareils. Nous construisons ce que nous voulons, même s'il y a bien sûr des règles à suivre pour travailler en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la communication n'est plus le but principal des amateurs de radio. Ils peuvent se servir de leur téléphone pour cela. Le but est de comprendre comment fonctionne la technologie.
Pour être officiellement autorisés à émettre ou recevoir, les radios amateurs du monde entier doivent suivre un cours et obtenir une licence, grâce à laquelle ils reçoivent un indicatif, ou call sign, leur nom d'utilisateur des fréquences radio. Et même si ces passionnés se qualifient d'amateurs, ils collaborent régulièrement avec des chercheurs dans la création de nouveaux systèmes de radio, par exemple pour des satellites ou sur une base dans l'Antarctique. D'autres cherchent à repousser les frontières de la radio en cherchant à émettre dans des endroits particulièrement difficiles d'accès, par exemple à la montagne. C'est ce que raconte Sven, qui n'hésite pas à transporter des kilos de matériel dans son sac à dos jusqu'au sommet des Alpes bavaroises.
Nous emmenons le matériel radio sur la montagne et l'activons une fois arrivé à destination, car du haut d'un sommet, nous pouvons émettre très loin. Mais comme nous devons transporter le matériel, il faut que nous fabriquions des émetteurs qui soient les plus petits possibles.
Pour les radios amateurs, il y a donc encore beaucoup de défis à relever, dont un très important, celui de montrer qu'à l'époque d'Internet, leur passion est loin d'être obsolète. Il rappelle d'ailleurs que toutes les technologies modernes, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, reposent sur des fréquences radio. Et Jan Götze, un ingénieur venu visiter l'exposition des radios amateurs, avance également un argument inattendu.
Le bilan énergétique de la radio est intéressant. Quand je communique avec, par exemple, les États-Unis par fibre optique, je passe par beaucoup d'intermédiaires et cela nécessite énormément d'électricité. Pensez aux centres de données, ils consomment une quantité incroyable d'énergie. Avec la radio, j'ai besoin d'une antenne, d'un émetteur et c'est tout, cela ne consomme rien.
Si l'argument écologique ne suffit pas, Markus Heller en avance un autre, celui de la nécessité de comprendre ce qui se cache derrière nos technologies modernes.
Je suis un grand fan de technologie, je trouve ça tellement excitant, mais notre société doit être capable de la maîtriser. Les jeunes surtout, ils doivent savoir comment fonctionne une machine, et pas seulement savoir comment l'allumer ou l'éteindre. Nous voulons que la technologie appartienne à toute la société, et pas seulement à l'industrie.
Les radios amateurs cherchent donc à recruter plus de jeunes en travaillant par exemple avec l'université de Munich. Arriveront-ils à former assez de nouvelles recrues pour faire vivre leur passion? Ils espèrent. En tout cas, une chose est sûre, ils ne manqueront pas d'écouter ce reportage.
Vous connaissiez déjà le principe de la personnalité de l'année, peut-être pas celui de l'arbre européen de l'année. Cette distinction est attribuée par une fondation environnementale tchèque. Le 21 mars dernier à Bruxelles, c'est un vénérable chêne portugais qui a été distingué. Un chêne liège siffleur de 234 ans qui coule des jours heureux près de Setúbal, village près de Lisbonne. Les habitants l'appellent l'arbre siffleur car il héberge des milliers d'oiseaux piailleurs dans ses ramages. Un vote des plus symboliques alors que le pays est toujours traumatisé par les incendies de 2017 qui ont fait 114 morts et détruit 500 000 hectares de forêt. Le portrait du lauréat avec Marilyn Darcy.
Le chêne siffleur impressionne avec ses 16 mètres de hauteur, son tronc si large qu'il faut 5 personnes pour l'entourer et sa frondaison de près de 30 mètres. L'arbre est un seigneur. Malgré ses 234 ans d'âge, sa beauté est intacte et sa belle stature en fait un très bon représentant de l'espèce Quercus uber, autrement dit chêne liège. Pour sa première participation au concours, le Portugal réalise un coup de maître. Cette espèce est en effet typique du sud et le Portugal possède la plus grande forêt de chêne-liège du pourtour méditerranéen. Dans le pays, et particulièrement au sud, c'est toute une activité agricole et pastorale qui s'est développée autour de l'arbre, choyé pour son écorce, mais aussi pour ses glands qui nourrissent les animaux encore aujourd'hui. Sa carapace est une merveille. Son écorce, que l'on connaît d'ordinaire sous la forme de bouchon, constitue aussi une exceptionnelle défense naturelle contre les incendies. Une couche protectrice que le Quercus suber a su patiemment développer pour faire face aux conditions extrêmes. Pourtant, menacé par l'urbanisme, par les cultures intensives d'autres espèces à croissance plus rapide et à rentabilité plus immédiate grâce à l'irrigation, le chêniage et son écosystème disparaissent. Car lui, c'est un lent. Il lui faut 30 ans pour donner du liège. Mais après les terribles incendies de 2017 qui ont traumatisé les Portugais, le chêniège est redevenu un arbre chéri. Le siffleur de Águas da Moura est devenu un symbole.
Wait to hear my next record. Oh, maybe the critics won't like it.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors je ne sais pas si ces oiseaux-là sifflent, en tout cas ce sont des artistes qui chantent et même très bien.
Et oui, et alors attention, Peter Carnell n'est pas à proprement parler un chanteur, mais plutôt un duo formé par le Suisse Aris Bassetti et la Canadienne Barbara Lenoff. Ils se sont rencontrés dans une école d'art visuel en Suisse, lui graphiste et elle vidéaste, mais c'est en musique qu'ils conjuguent leurs talents. Ils le font en premier lieu pour l'enregistrement de la bande-son d'un film réalisé par Barbara Lenoff. C'était en 2005, 13 années et des centaines de concerts plus tard, Peter Carnell publie un quatrième album remarquable intitulé The Size of the Night, la taille de la nuit. C'est cet espace flou où toutes les émotions et les pensées sont possibles. Ici, mise en musique sous les traits mouvants d'un rock expérimental et subtil.
C'est avec Carnell que nous refermons cette édition. On se retrouve demain pour de nouvelles rediffusions de nos reportages.